Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où vous étiez en colère par rapport à quelque chose qui venait de vous arriver, mais genre vraiment en colère? Et là, il y a quelqu'un qui, avec les meilleures intentions du monde et toute la douceur qu'on peut imaginer, arrive et quelque part essaye de vous rassurer, de le minimiser, de vous dire que bah, vous devriez pas vous mettre dans cet état-là, c'est pas si grave, ça mérite pas toute cette colère. Vous voyez comment vous vous sentez quand quelqu'un fait ça?
Bonjour, c'est Aimé et Adrien de Je vais mieux, le podcast où on partage avec vous des outils pour être plus heureux.
Alors bien sûr, vous vous en doutez, la scène nous est arrivée il y a genre 2 jours. Moi j'avais bossé, je m'étais donné à fond sur l'écriture d'un texte, je m'étais vraiment donné du mal, j'avais la sensation de m'être dépassée, d'avoir atteint encore un nouveau niveau, entre guillemets, bon, qui n'existe qu'à l'intérieur de moi, on est d'accord, voilà. Mais j'étais fière de ce que j'avais fait et j'étais contente, j'avais réussi à avoir des idées que j'avais pas d'habitude, enfin bon, voilà, j'étais très contente de ce que j'avais fait et je m'étais donné du mal. Et puis, ben, par un malheureux bug informatique, j'ai tout perdu, d'un coup. Donc je vous laisse imaginer la colère, la frustration et en dessous de ça, la déception, en fait, presque la tristesse dans laquelle j'étais de me dire, en fait, tout ça s'est perdu. Et je vais pas pouvoir le récupérer. Je sais, j'ai essayé de le réécrire, mais j'ai pas réussi. Et vraiment, cette colère de c'est pas possible, quoi. Pourquoi ça m'arrive? Enfin, qui... Non! Non! Je veux revenir en arrière, c'est non! Voilà. Et là, Adrien qui me dit. C'est pas si grave, lâche prise. Le truc qui aide à fond quand on est bien, 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 bien en colère.
Alors là, je vous laisse imaginer que cette phrase, elle n'a pas du tout, du tout, du tout aidé. Le petit, oh mais chérie, c'est pas si grave, vas-y, laisse tomber, on verra demain. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, ça part d'un endroit sympa, ça part d'un endroit de, j'ai pas envie que tu souffres, alors du coup, j'essaye de te réconforter, j'essaye d'être gentil, j'essaye de venir te voir et tout ça. En fait, je sais pas quoi faire, je viens te voir en essayant de croire que ce que je suis en train de dire va t'apaiser pour que tu souffres moins ou pour que cette situation se calme. Mais en fait, je suis un peu pato avec moi-même et vu la réaction que ça déclenche chez toi instantanément, je me rends bien compte que c'était pas la bonne chose à faire et du coup, je me retrouve encore plus dans l'incompréhension. Alors forcément, je te pose la question classique de mais est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et là, forcément, tu me réponds bien sûr que non, tu peux rien faire. Tu peux pas ressusciter un ordinateur, tu peux pas ressusciter un fichier. Donc en fait, tu peux rien faire. Et du coup, j'ai beau avoir envie de pouvoir aider, je me retrouve dans une situation d'impuissance. Donc du coup, je quitte la scène, enfin, je pars parce que je comprends pas pourquoi ça crée une telle forme de douleur chez toi. Et en plus de ça, je suis impuissant et je sers à rien, quoi. Enfin, c'est.
Voilà, donc moi à ce moment-là, je me dis, ah ouais, donc en plus de me dire un truc qui me met encore plus en colère, il se barre après ça. Genre, pop-pop-pop-pom, je m'en vais sur la pointe des pieds. Et en fait, il n'y a rien de pire quand on est très très fort en train de vivre une émotion, que ce soit de la colère ou que ce soit de la tristesse ou peu importe, de s'entendre dire que on ne devrait pas être en train de vivre cette émotion. Parce qu'en fait, le c'est pas si grave, lâche prise, c'est ça qu'il dit. Il nie la légitimité de l'émotion que je suis en train de vivre à ce moment-là. Il me dit que je devrais être capable de ne pas me mettre en colère, de faire le moine bouddhiste qui n'est atteint par rien, de être capable de lâcher prise instantanément et de pouvoir prendre de la distance avec tout. Mais en fait, l'être humain, il n'est pas comme ça. On est des créatures d'émotions et on a des émotions et elles sont légitimes dans la situation. Et moi, ce que ça me dit à ce moment-là, quand tu viens de l'extérieur et que tu me dis lâche prise, c'est pas légitime de rester dans la colère. Et du coup, en plus de me dire que ce que je vis n'est pas légitime, ça me dit que bah, tu comprends pas en fait du tout pourquoi je suis en train de revivre cette colère. Parce que bah, Ok, oui, absolument. Dans le grand tout des choses, bien sûr que c'est pas grave. Je veux dire, il y a une guerre en Ukraine qui est atroce. Moi qui perds un texte, ça n'a aucune forme de gravité. Mais en fait, à ce moment-là, c'est tout mon travail, c'est toute mon attention, c'est tous mes efforts, mais c'est aussi toute ma fierté qui s'en va comme ça, en un coup de vent. Et ça, ben, pour moi, ça a une forme d'importance. Et ce que ça me dit à ce moment-là, c'est que cette importance-là, tu la vois pas, tu la perçois pas, ou alors, elle a pas d'importance pour toi. Et du coup, ça me met dans un endroit où je me sens pas comprise dans ce que je vis. Quelque part, du coup, pas prise en compte dans le fait que, ben si, pour moi, ça crée de la colère. Et tout ça aboutit à un sentiment de solitude plus, où ben, je suis seule dans mon émotion et en plus je ne devrais pas être en train de la vivre. Et cerise sur le gâteau, c'est que à ce moment-là, ben, comme c'est toi qui viens de me faire une remarque qui me fait mal en plus du premier truc, c'est pratique, t'es maintenant devenu le méchant de mon histoire, donc ma colère peut se retourner contre toi, ça tombe bien, je cherchais contre qui être en colère et qui blâmer de mon grand malheur. Donc à ce moment-là, t'es une personne en chair et en os, c'est beaucoup plus pratique que de maudire le téléphone qui a failli valser ou de maudire l'informatique en général. Et tout d'un coup, ma colère, elle se dirige contre toi. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit « Bah tu vois, c'est de sa faute en fait, parce que lui, il n'est pas capable de t'aider, parce qu'il n'est pas capable de te soutenir, parce que, eh mais s'il était capable, bah tu serais plus en colère. » Et ça réécrit complètement l'histoire, parce que dans ce moment-là, Ça me surblesse, en fait. Ça vient me blesser une fois de plus. Et ça dirige toute ma colère contre toi.
Et ça crée une forme d'incompréhension et une forme de douleur chez moi instantanément parce que je me dis, mais attends, là, je viens, entre guillemets, d'essayer de faire quelque chose pour t'aider. J'ai l'intention d'être gentil. J'ai l'intention d'être avec toi. Je pars de plein d'endroits qui sont de très bonnes intentions. Et tout à coup, ouais, je vois bien que cette remarque que j'ai faite, qui déclenche une surcouche de colère sur la colère de départ, finit par se retourner contre moi, et en fait, je deviens, entre guillemets, en partie l'ennemi dans la scène. Et du coup, je comprends pas, parce que je me dis, mais attends, mais moi j'ai essayé de l'aider. Pourquoi est-ce que tout à coup, elle est en colère contre moi? Et en même temps, je me sens coupable, parce que je sens bien que en fait, ce que j'ai dit, ça l'a pas aidé du tout. Et en fait, le truc, ça devient un sac de nœuds, pas possible. Donc, du coup, après, je me dis, attends, est-ce que je reviens la voir pour l'aider ou quoi? Est-ce que je peux lui proposer? Je peux pas lui proposer? Comment je m'y prends? Enfin, au final, plus j'essaye, moins j'y arrive. Plus on s'énerve, moins ça marche.
Et on est tous les deux bloqués dans cette espèce de sentiment d'injustice et d'injustesse. Moi, mais il me comprend vraiment rien, il me comprend vraiment pas, il est pas capable de m'aider, de me dire la bonne chose, etc. Et toi, en mode, j'ai toutes les bonnes intentions du monde, j'ai vraiment essayé d'être là pour toi. En fait, je suis venue 3 fois pour petit 1, te rassurer, petit 2, te demander si tu voulais de l'aide, et petit 3, j'ai voulu respecter ton émotion et ne pas me rapprocher, et maintenant ça me retombe encore dessus. Et il y a un truc où on est tous les deux, en fait, en train de vivre la même chose, mais en miroir parfaitement, et tous les deux, quelque part, enfermés dans notre douleur à ce moment-là, et on n'arrive pas à se rejoindre.
Ça, c'est une incompréhension fondamentale de comment fonctionne le lien entre les êtres humains. C'est-à-dire que, pour être en lien, il faut qu'on partage des émotions ensemble. Oui. Il faut qu'on les partage. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans la même émotion. Oui. Quand on partage un plat sur une table, c'est pas moi je suis en train de manger quelque chose et toi tu manges quelque chose d'autre. Non, c'est que je vais partager ce que j'ai dans mon assiette ou ce qu'il y a dans le plat avec toi pour qu'on mange la même chose. Partager, c'est être au même endroit. Et en fait, c'est le fait de partager des émotions, donc de vivre les mêmes émotions ensemble au même moment qui crée notre lien. Et c'est pour ça qu'on se blesse. C'est parce que à ce moment-là, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ce dont on a besoin, c'est d'empathie. On n'a pas besoin de faire quelque chose. Moi, forcément, je me réfugie dans la logique classique des mecs qui sont un peu pâteaux avec leurs émotions et qui n'arrivent pas forcément à être à l'aise avec ça. Donc, du coup, je cherche à trouver une solution au problème. Je cherche à agir. Alors qu'en fait, ce dont on a réellement besoin, c'est d'empathie, c'est-à-dire de ressentir ce que ressent l'autre.
Oui.
Voir le monde à travers les yeux de l'autre.
Oui, c'est ça l'empathie, finalement. C'est être capable d'être avec l'autre dans son émotion, à travers ses yeux à lui, à travers son prisme à lui, de l'imaginer depuis son point de vue à lui. Et ça, on est câblé pour, en fait. C'est-à-dire que les mammifères sont faits pour décoder en une fraction de seconde, de façon quasi subconsciente, ce qui est en train de se passer chez l'autre. On voit un micro-muscle du visage qui bouge, et immédiatement, même si notre mental l'a pas encore perçu et analysé, même si on n'est pas encore capable de mettre un mot dessus, on sent alors particulièrement des émotions de panique, de peur, de colère, parce qu'il y a une raison de survie derrière ça, vraiment très importante. Mais c'est aussi parce qu'on en a besoin pour pouvoir nous développer en tant qu'être humain. Et là, la psychologie nous dit deux choses très importantes par rapport à ça, qui vient de l'observation des bébés, parce que c'est ceux qui sont les plus bruts de décoffrage, entre guillemets. Donc là où on peut comprendre qui est l'être humain dans sa forme la plus pure, on va dire, et sans culture. Et le premier, c'est Daniel Stern qui a parlé de ce qu'on appelle l'accordage affectif. Et lui, il dit « Le bébé naît avec une panoplie de compétences pour séduire sa mère et les autres adultes. » Bon, bien sûr, les psychanalystes s'intéressaient plus aux mères qu'aux pères. Hein. On peut le leur reprocher, mais c'est un autre débat. Mais l'enfant, le bébé, a la capacité à attirer l'attention de l'adulte, à le séduire, à l'attirer à lui et à lui donner envie de prendre soin de lui. Et en fait, ça passe par cet accordage affectif qui est le fait d'être en phase sur le plan émotionnel. Donc, la réaction, l'expression de l'enfant va créer une réaction émotionnelle chez l'adulte qui est supposé être symétrique et inversement proportionnel. Et c'est pour ça que, ben, si un enfant pleure, mais même un adulte, en général, on ne se met pas à exploser de rire en face. Parce qu'en fait, ça ne nous fait pas rire. Ça a un écho à l'intérieur de nous qui nous permet de nous accorder avec ça, vraiment comme deux instruments qui s'accordent pour pouvoir ensuite jouer ensemble, donc créer une harmonie sur le plan émotionnel. Et cet accordage affectif, il permet, dans le cas du bébé, de s'identifier à l'adulte et donc de voir que, ok, on est de la même espèce et on communique sur le même plan. Et l'enfant, il a que ça hein, pour communiquer, il a que ses émotions. Il a ses pleurs, il a ses cris, il a ses rires, il a ses joies, il a ses sourires. Il a que des émotions pour communiquer. Donc, ça lui permet de voir que, ok, il est de la même espèce que cet individu qui, par ailleurs, fait plein d'autres choses que lui ne sait pas encore faire. Ça lui permet de se sentir proche et surtout ça lui permet de se sentir en sécurité sur le fait que l'adulte le comprend, que l'adulte réagit à ce qu'il vit et ce qu'il ressent et que du coup, il va prendre soin de lui, que l'adulte va prendre soin du bébé et ne va pas l'abandonner.
Ouais.
Et en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que si quand je vis quelque chose, je sens que ça te fait quelque chose, que ça a de l'importance pour toi parce que j'ai de l'importance pour toi, parce que j'ai de la valeur, alors je sais que tu es là à côté de moi. Si quand moi je vis quelque chose, toi tu restes distant, froid, ou tu t'occupes ou tu m'aides à faire quelque chose mais de façon mécanique, ça me dit à moi que j'ai pas d'importance pour toi, que ce que je vis n'a pas d'importance, qu'on n'est pas en lien. Et c'est là que vient la peur de l'abandon. Et beaucoup d'adultes qui vivent avec cette peur de l'abandon ou cette blessure de l'abandon cherchent dans leur enfance des vraies scènes d'abandon. Est-ce qu'on vous a perdu un jour au supermarché Est-ce que vos parents sont sortis et vous avez eu l'impression qu'ils ne reviendraient jamais On vous a laissé pendant 3 mois chez vos grands-parents et vous n'avez pas compris. Des choses comme ça. On cherche des événements comme ça. Malheureusement, bien souvent, il y en a parce qu'on les trouve, parce que la vie nous en apporte. Mais au-delà de ça, en fait, parfois, cette peur de l'abandon, elle peut venir aussi d'un moment comme ça où on a senti que malgré tout ce qu'on mettait en œuvre pour appeler l'autre à nous émotionnellement, malgré toutes nos tentatives pour créer cet accordage affectif, en fait, ça n'a pas fonctionné. En fait, l'adulte est resté à distance. Et ça, il y a bien sûr une question de génération, c'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui ont 65 ans et plus, souvent ont été éduqués de façon à rester assez à distance des enfants et des bébés. Mais même eux, ils se font prendre et même eux, ils sont capables de devenir gaga devant un bébé. Mais voilà, il peut y avoir ce genre de choses qui vient. Et ça crée cette peur de l'abandon. Et l'autre apport de la psychologie, c'est René Spitz. Alors Spitz, ça s'écrit S-P-I-T-Z, voilà. En 1946, on lui a demandé d'étudier pourquoi est-ce qu'il y avait autant de nourrissons placés en pouponnière qui mouraient prématurément ou qui avaient des gros, gros problèmes développementaux. Et donc, il est allé et il a étudié. Et en fait, ce qu'il a mis en lumière, c'est que ces nourrissons, on s'en occupait de façon anonyme, mécanique et non affective, avec jamais d'affect. Donc ils n'étaient pas regardés, ils n'étaient pas nommés, on ne s'adressait pas à eux comme si c'était des personnes, on n'interagissait pas avec eux. On les changeait, ils étaient nourris, il y avait la bonne température, il y avait toutes les conditions mécaniques pour que le corps puisse vivre, mais aucune des conditions affectives pour que l'être humain puisse vivre. Et ces enfants, ce qu'on observait, c'était que dans une première phase, ils se rebellaient contre ça, donc des pleurs, des cris pour attirer l'adulte, etc. Une deuxième phase, ils arrêtaient de se rebeller, ils arrêtaient de pleurer, ils se mettaient en retrait et au contraire, ils évitaient le contact. La troisième phase, c'est ce qu'on appelle la dépression anaclitique, qui est vraiment une dépression profonde où, en fait, c'est comme s'il n'y avait plus personne à l'intérieur. Et là, il y a arrêt du développement, de la croissance, les organes qui commencent à souffrir, etc. Et malheureusement, la quatrième phase, c'était la mort du nourrisson. Et ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de l'hospitalisme. Et ça a été vraiment, vraiment important parce que ça nous a permis, à nous adultes, de nous rendre compte à quel point, en fait, l'être humain a besoin d'être vu dans qui il est, dans la personne qu'il est, dans l'âme qui habite ce corps, qu'on a besoin de sentir qu'on est en lien affectif et émotionnel avec l'autre. Parce que c'est ça qui nous donne la sensation d'être compris, d'avoir de l'importance et finalement d'exister. Et c'est ça qui nous donne envie de vivre. Et si le bébé est capable d'en mourir, ça nous montre à quel point ce besoin-là, il est essentiel, comme manger, boire et respirer.
Ouais. Donc finalement, cette petite remarque qui paye pas de mine, qui consiste à dire « Oh, mais c'est pas si grave », en fait, elle recrée, d'après ce que tu nous expliques, une forme de blessure d'abandon.
Oui. D'où le sentiment de solitude.
D'où le sentiment de solitude. Et ça, c'est incroyable. C'est qu'en fait, le sujet, bien sûr, n'est pas le sujet. C'est-à-dire que le sujet n'est pas de savoir si cette chose est grave ou pas. Le sujet, c'est, en fait, est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me sens? Est-ce que tu es avec moi? Et ça, c'est difficile. C'est difficile, malgré le fait qu'on soit câblé pour, parce que pour pouvoir être dans l'empathie, il faut pouvoir voir les choses à travers les yeux de l'autre. Oui. Et en fait, certaines choses peuvent être très impactantes pour toi, déclencher des grosses émotions pour toi, alors qu'en fait, pas du tout pour moi. Donc si je passe à côté un peu vite et que je vois la scène juste de l'extérieur et que je la regarde avec mon cerveau à moi en train d'analyser pour essayer de comprendre ce qui se passe ou quoi...
Et d'analyser les faits.
Et ben en fait, moi, mon cerveau, il dit « Bah non, là, il s'est rien passé, là, c'est pas grave, c'est bon, vas-y, passe à autre chose. » Donc, il y a cette difficulté d'altruisme, cette difficulté à marcher dans les chaussures de l'autre, oui. à voir le monde à travers les yeux de l'autre. Et ça, c'est pas facile.
Non, et c'est pas facile parce que ça demande de la disponibilité intérieure aussi. Cet exercice de décentrage, s'il n'est pas si simple, c'est parce que ça demande d'avoir un petit peu de marge de manœuvre à l'intérieur de soi. Ouais. Et si moi, je suis déjà stressée, en train de courir à droite à gauche, dans mon propre mouvement, à ne pas savoir comment je vais gérer ma charge physique, mentale, organisationnelle, etc. Ou si je ne me sens pas bien moi-même, ou voilà, si je suis juste pris par quelque chose, emporté par quelque chose, habité par quelque chose, eh ben, j'ai très peu d'espace disponible à l'intérieur de moi pour pouvoir accueillir ce que toi, t'es en train de vivre. Et du coup, c'est vraiment ce besoin de s'arrêter et de dire « Ok, en fait, le sujet, c'est pas est-ce que moi, ça m'impacterait ou pas, est-ce que j'en pense. Et oui, j'ai plein de choses à faire, mais là, il faut que j'enlève quelque part le costume de moi et que je puisse, pendant 30 secondes ou un peu plus, prendre le costume de l'autre et quelque part devenir l'autre de son point de vue à lui ou à elle.
Elle est très belle cette image de dire, en fait, là, ce dont on aurait besoin, l'espace d'un instant, c'est d'enlever le costume de moi pour revêtir le costume de toi. Et c'est délicieux quand on le fait. Et pourtant, cette histoire d'avoir de la disponibilité et intérieure, d'avoir de la marge de manœuvre à l'intérieur de nous-mêmes, elle est délicate de manière générale et elle est de plus en plus délicate avec nos modes de vie. C'est-à-dire qu'en fait, On est tout le temps captivé par quelque chose, on est tout le temps pris par quelque chose, on est avec un objectif à accomplir, on est en retard, on n'a pas le temps, on est émotionnellement absorbé à l'intérieur de nous. Donc en fait, on est à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos propres pensées, dans nos propres émotions, dans nos propres ruminations. Et du coup, si l'autre n'est pas très loin de moi, ça va. Par contre, si l'autre est en train de vivre une émotion qui est très loin de moi, ça va me demander un effort de le rejoindre là où il est. On retombe toujours sur cette idée de avoir envie de rejoindre l'autre là où il est, même si c'est quelque chose pour lequel on est naturellement câblé. Si on est déjà nous-mêmes dans une lancée, ça ne va pas forcément être évident et ça va demander de la conscience, de l'investissement et de la présence.
C'est ça. Et si toutes les spiritualités orientales nous disent que, en fait, être absorbé par soi-même, c'est la meilleure façon d'être malheureux, c'est pas pour rien. Une des façons, une des pratiques de la pour cultiver de la joie dans sa vie du Dalai Lama, c'est la compassion. C'est pas pour rien non plus. C'est parce qu'en fait, l'empathie nourrit les deux. Mais ça, c'est quelque chose que il faut qu'on arrive à voir sur le moment. Et du coup, ça sous-entend de quelque part suspendre pendant quelques moments mon élan. Parce que oui, j'ai toujours quelque chose d'autre à faire. On a tous, toujours, encore quelque chose à faire. Indéfiniment, jusqu'à la fin de notre vie. Donc, il y a suspendre cet élan que j'ai, qui est un élan physique, qui est un élan mental, qui est un élan émotionnel aussi, de stress, etc. Pour pouvoir créer un moment de rencontre avec l'autre. Et en fait, ces moments, ils nourrissent, j'ai même envie de dire les trois, c'est-à-dire toi, moi et le couple.
Ouais. Et il y a une autre difficulté à ça, c'est que quand l'autre est en train de vivre une émotion, on va dire, douloureuse, une émotion qui est dans le spectre de la souffrance, notre réaction spontanée, elle ne va pas forcément être de rester avec l'autre là où il est. Parce que ça veut dire rester dans l'inconfort avec l'autre.
Et,
Et ça demande du courage. C'est-à-dire qu'en fait, l'empathie, si c'est dans un moment de joie, c'est sympa, c'est fun, c'est génial, tout le monde s'enjaille, et ça, on sait tous faire. Par contre, quand la personne elle est en train de vivre de la tristesse, quand elle est en train de vivre de la colère, quand elle est en train de vivre peut-être même du désespoir, ça serait peut-être précisément à ce moment-là qu'on aurait le plus besoin de l'autre.
Et oui.
Qu'on aurait le plus besoin que l'autre reste avec nous. C'est précisément parce que c'est inconfortable, parce que c'est douloureux.
Oui.
Mais ça, on n'a pas été éduqué à le faire.
C'est aussi précisément ce qui fait très peur à l'autre, parce qu'effectivement... plonger dans ton désespoir avec toi, c'est-à-dire je vais me noyer aussi. Non, finalement, faut que j'aille ranger la cuisine. Oh, je reviens tout à l'heure, hein, je verrai comment t'es. Tu vois, il y a quelque chose de très naturel à ça. Et effectivement, être empathique ou avoir cette envie de rejoindre l'autre, ça sous-entend que je vais à l'encontre de mon réflexe reptilien plutôt naturel, hein, encore une fois, d'avoir envie de fuir. En fait, de fuir cet inconfort-là. Et c'est normal, encore une fois, c'est ce qu'on avait déjà dit dans un épisode précédent. Le cerveau, il est câblé pour nous faire répéter les expériences de plaisir, nous faire éviter les expériences de déplaisir. Donc là, toi, t'es en train de vivre une expérience de déplaisir. Moi, je suis supposée aller dans le déplaisir avec toi. Je suis pas d'accord. Sauf que le truc, c'est que, en fait, si j'arrive à te rejoindre, toi, dans ton émotion, ça va créer un plaisir pour les deux. Ça va nous nourrir tous les deux. Parce qu'encore une fois, c'est en fait quelque chose dont on a tellement besoin profondément en tant qu'être humain, des deux côtés, parce qu'on est tous les deux des êtres humains. Donc on a tous les deux ces besoins du nourrisson dont on parlait tout à l'heure. Ces besoins profonds de l'être humain d'être en empathie, d'être en accordage affectif, de sentir que ça résonne entre nous. Et en fait, paradoxalement, cette émotion de colère, de peur, de tristesse, de désespoir, qui représente un inconfort, si on y est seul, c'est insupportable. Si on y est à deux, ça devient presque l'inverse. Une expérience de plaisir ou de chaleur ou d'amour ou de réconfort et quelque chose qui va nourrir notre lien, qui va le renforcer.
Et ça, c'est incroyable parce que cette sensation spontanée d'avoir envie de fuir, soit fuir physiquement, c'est-à-dire concrètement Là, dans cette scène, je viens de te demander si je peux faire quelque chose pour toi et tu me réponds que non. Et je vois bien que, en fait, je me sens mal à l'aise parce que t'es mal à l'aise et en fait, je sais pas quoi faire. Je vais physiquement sortir de la scène et ensuite, ce que beaucoup d'hommes aiment faire à ce moment-là, justement, c'est faire. Faire quelque chose. Se donner la sensation de consistance. Donc là, ça va être ranger la maison, ça va être passer l'aspirateur, ça va être n'importe quoi. Tout pour ne pas rester avec l'émotion. Tout pour fuir l'endroit où tu es. Tout pour ne pas être dans l'inconfort avec toi.
Oui.
Et ce truc de « je vais compenser par faire ».
Alors, c'est faire effectivement autre chose ou, et peut-être même parfois surtout, d'abord, faire pour résoudre.
Ah oui.
C'est-à-dire que je vais essayer de résoudre le truc. Vas-y, dis-moi comment je peux t'aider là, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que tu veux que, je sais pas, je balance trois mots sur la feuille et puis comme ça, ça remplacera le texte que t'as écrit, est-ce que tu veux que, je sais pas quoi. Et en fait, cette envie de résoudre, c'est une sorte de fuite en avant, c'est-à-dire, ok, vite que la situation soit terminée, vite qu'on résolve le problème pour qu'il n'y ait plus l'émotion inconfortable, désagréable, qui fait peur, qui est associée à cette situation. Et c'est vraiment une fuite en avant, c'est-à-dire, je veux que ce soit fini. Je veux pas que l'inconfort reste.
Ouais. Alors, deux autres ennemis de l'empathie qui sont pas forcément évidents et visibles au départ, c'est cette tendance naturelle qu'on va avoir à chercher à rassurer, apaiser, relativiser... Comparé à quelque chose d'autre en disant « Non mais tu te rends compte, c'est pas si grave, il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique. » Plein de choses comme ça qui sont là pour essayer de minimiser, de
réduire le truc.
Réduire, de le contenir en croyant que parce qu'on va lui accorder moins d'importance, il va avoir moins de poids et donc moins de puissance. Donc du coup, on en sortira plus vite et ça sera moins inconfortable. Ça, c'est une négation de ce que l'autre est en train de vivre et ça fait précisément l'inverse.
Oui.
C'est-à-dire que ça donne la sensation à l'autre qu'il n'est pas vu, qu'il n'est pas entendu, qu'il n'est pas accueilli, qu'il n'est pas compris. Et en fait, ça coupe le lien, ça nous sépare. Et sur le moment, on ne comprend pas parce qu'on se dit « Oui, ok, je suis en train d'essayer de la rassurer, donc je suis en train d'essayer de lui faire du bien. » C'est ce qu'on se dit. Mais en fait, ce que l'autre personne vit à ce moment-là, ça ne lui fait pas du tout du bien.
Non. Non. Et un autre ennemi de l'empathie dans cette veine-là, et là, c'est très compliqué parfois de les différencier, c'est la pitié. C'est le... Oh, ma pauvre, oh, c'est vraiment pas de chance, hein. Ah, vraiment, t'as pas de chance, hein. Ah ouais, là, c'est dur, hein.
Ma pauvre fille, c'est quand même très injuste ce qui t'arrive, voilà.
Ça, c'est pas de l'empathie, et ça me fait pas me sentir mieux, et ça me donne pas la sensation que tu vois les choses de mon côté. Et souvent, ça va de pair avec le fait que, en fait, moi, je suis en train de vivre quelque chose qui, bon, certes, a déjà une certaine forme d'intensité. En voulant me rejoindre dans cette intensité, tu en fais quelque chose qui est soit encore plus intense, encore plus grave, entre guillemets, soit un tout petit peu à côté de là où je suis, et où du coup ça ne me donne pas non plus la sensation que tu me comprends, que tu vois où je suis et que tu y es avec moi.
Et la pitié, en fait, nous sépare l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de porter un jugement et une évaluation sur ce que je suis en train de vivre.
Oui.
Tu es... observateur extérieur de ce qui est en train de se passer, donc c'est tu ça. N'es pas avec moi, donc je me sens seul, donc cela ne me rassure pas et cela ne me fait pas du bien.
C'est ça, tu portes un regard, ton regard sur la scène, mais t'es pas avec moi à voir la scène à travers mes yeux. Et ça, c'est très différent de tu regardes depuis là où tu es. Et oui, ok, t'es en train de regarder cette scène et t'es pas en train de fuir, mais t'es pas non plus en train de me rejoindre.
Alors maintenant, heureusement, il y a plein de très très bonnes nouvelles autour de l'empathie. C'est que même si là, on vient de vous exposer toutes les choses difficiles et toutes les problématiques qu'on rencontre, tous les écueils sur le chemin, en fait, il faut aussi voir à quel point c'est nourrissant. La très bonne nouvelle, c'est qu'on peut imaginer que l'empathie, ce soit quelque chose comme la nourriture fondamentale de l'être humain. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous nourrit profondément. Le partage émotionnel est quelque chose qui nourrit notre âme, qui nous nourrit dans le corps, qui nous rapproche, qui nous fait nous sentir en lien, et c'est quelque chose dont on a fondamentalement besoin. Donc même si au départ, on peut avoir l'impression que c'est difficile, et on peut avoir l'impression que c'est un effort, en fait, une fois qu'on est dedans, on réalise à quel point c'est savoureux et à quel point ça nous fait du bien. Et du coup, on ancre à l'intérieur de nous-mêmes l'information selon laquelle Non, ce n'est pas un effort, même si au départ, ce n'est pas forcément une réaction spontanée. Mais avec le temps, avec la pratique, en fait, c'est quelque chose qui nous fait fondamentalement du bien. Et ça nous rapproche tellement que derrière, ça crée une qualité de connexion à l'autre qui est juste géniale.
Oui, on a tous le souvenir d'un moment où on était triste. Et en fait, on avait juste besoin de quelqu'un qui soit là pour nous tenir la main, en fait. Pour juste être avec nous, parfois même en silence. Parfois, c'est même le silence qui est le mieux. Mais juste, on sent que l'autre est complètement présent avec nous. Qu'il n'est pas en train de penser à sa liste de courses. Ou à bon, combien de temps ça va prendre. Ou à mince, attends, il faut encore que j'appelle un tel et un tel. Il est vraiment avec nous, en silence, à rester là. Et à prendre le temps que ça prendra, qu'il peut rester là une soirée, une nuit, une journée, le temps qu'il faudra pour que nous, on puisse traverser cette émotion. Parfois, ça fait du bien que l'autre dise deux, trois mots. Parfois, ça fait du bien qu'il n'en dise pas. Mais dans tous les cas, c'est se donner cette sensation qu'on est ensemble. Et ça, ça construit la confiance en l'autre. À l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure sur la fuite, où en fait, quand moi je suis en difficulté, toi tu vas, petit 1, essayer de le minimiser, petit 2, essayer de le résoudre, petit 3, essayer de te barrer, ce que ça me dit, c'est que je peux pas compter sur toi dans ces moments-là. Quelque part, je peux pas faire confiance, et ça donne cette peur d'être abandonné ou ce sentiment d'être seul, ou juste le « ok, donc en fait, quand moi je suis en difficulté, je suis seul. » Alors que si au contraire on peut faire ce pas vers l'autre et juste être avec l'autre et donner à l'autre la sensation qu'on est pleinement présent avec lui ou avec elle, le temps qu'il faudra, ce qu'on lui donne comme message profond, c'est qu'on est là avec elle et qu'on n'a pas l'intention de partir, qu'on n'a pas l'intention de laisser la personne toute seule, qu'on n'a pas l'intention de l'abandonner, que oui, ce que l'autre vit, ça nous fait quelque chose. Que oui, ça a de l'importance pour nous, parce que cette personne a de l'importance, parce que cette personne a de la valeur pour nous. Et du coup, ça compte. C'est « tu comptes pour moi » qu'on dit quand on reste dans ce moment d'empathie. Et ça, c'est fondamentalement ce dont chacun d'entre nous a besoin au moment où il est en détresse, mais c'est aussi fondamentalement ce qu'on a besoin de se dire et de se signifier comme message pour que n'importe quelle relation puisse tenir dans le temps et traverser les tempêtes de la vie qui arrivent inexorablement.
Ça dit à l'autre, tu es légitime.
Oui.
Ça dit à l'autre, tu as le droit de vivre ce que tu vis. Ça dit à l'autre, qui tu es, ce que tu es, c'est bien comme ça. Tu ne devrais pas être autrement. Tu n'as pas besoin d'être autrement, mieux, différent, plus fort, moins fort, plus ci, moins ça.
Oui.
Et ça, c'est très puissant, parce que ça envoie un message vraiment dans le cerveau profond de « je t'aime tel que tu es ». Je t'aime, je suis là pour toi, je suis là avec toi, tu as de la valeur pour moi. Et c'est en restant avec l'autre là où il est qu'on lui donne cette sensation parce que ça légitime son expérience vécue. Et ça, ça crée de la confiance et ça crée une forme de lien qui est très profonde. Parce que finalement, l'inverse de l'amour, c'est pas la haine. L'inverse de l'amour, c'est l'indifférence.
Oui.
Et là, ce qu'on est en train de dire, comme tu l'exprimais très bien, c'est que ce que tu vis ne me laisse pas indifférent. Ce que tu vis me touche. Donc tu as de la valeur pour moi, donc c'est important pour moi. C'est parce que je suis touché émotionnellement par ce que tu es en train de vivre que je te dis à quel point tu comptes pour moi.
Oui. Et la dernière petite bonne nouvelle qui va avec ça, c'est que, en plus, on a l'impression que c'est très très difficile d'être empathique, mais finalement, c'est juste être là avec l'autre. Ça demande pas de savoir résoudre tous les problèmes de l'univers qui pourraient se présenter, et du coup, savoir être à la fois médecin quand t'as mal, informaticien quand t'as eu un problème avec l'ordinateur, pédopsychiatre quand le bébé a quelque chose, je ne sais quoi encore quand t'as un problème avec la voiture, la maison, tes amis, et j'en passe. Et qu'en fait, j'ai pas besoin de savoir comment résoudre tes problèmes, j'ai pas besoin de te sauver de tes émotions, je n'ai pas besoin de te sauver de tes situations de difficulté, j'ai pas besoin de tout savoir tout le temps, j'ai pas besoin d'être la solution pour toi, j'ai juste besoin d'être avec toi. Et ça, ça s'applique à toutes les situations, les petites comme les grandes, les petits tracas du quotidien, comme les grandes détresses qui nous arrivent forcément dans la vie. Et quand la personne qu'on aime vient de perdre une personne qui lui était chère, un parent, quelqu'un de très proche, etc., on ne peut pas le résoudre, ça. Et on n'a pas besoin de savoir le résoudre. On a juste besoin de pouvoir être là avec l'autre. Et ça, finalement, bah, c'est beaucoup plus simple quand on y pense. Ça enlève beaucoup de pression. Parce que ça dit que la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est ce pourquoi on a été câblé.
Ouais.
C'est ce que le mammifère à l'intérieur de nous, et l'être humain en particulier, sait faire par nature, comme le bébé qui sait attirer les adultes à lui, qui sait séduire sa mère, qui sait se rendre adorable et attirer l'attention. On a déjà toutes ces compétences-là, par nature, par naissance, à l'intérieur de nous.
Et ça, c'est clairement rassurant, comme tu dis, parce que ça nous libère de la nécessité de savoir quoi faire et de résoudre les problèmes.
Oui.
Et ça nous dit que, en fait, la solution, s'il devait y en avoir une, elle est dans notre lien. C'est-à-dire que d'abord, on s'aime, après, on verra. D'abord, on est en lien, après, on trouvera ensemble.
Oui.
C'est pas forcément la réaction la plus spontanée, et pourtant, c'est probablement la plus naturelle.
Oui. Alors, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de l'empathie, l'un à l'autre, mais aussi à vous-même. Parce que, encore une fois, être empathique avec l'autre nourrit les deux et nous nourrit nous. Parce que quand on est dans la position d'être empathique avec l'autre, on est nous aussi, le mammifère, le petit bébé, l'être humain qui est profondément en lien avec l'autre. Et ça, ça nous fait un bien fou. Et ça construit cette confiance de fond dans la relation. Cette confiance qu'on ne va pas s'abandonner, cette confiance qu'on fait partie de la même espèce et qu'on est là ensemble. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se donner dans une relation intime. Et d'ailleurs, c'est dans la relation intime qu'on peut le trouver. Parfois, il y a des inconnus qui vont nous le donner, et c'est ça qui est merveilleux aussi, au-delà des barrières de la langue, de la culture, des contextes politiques, etc. On a vu plein de fois dans l'histoire des gens aider d'autres gens juste par empathie pure, alors qu'ils ne se comprenaient pas, alors que c'était un milieu de leur imaginaire, alors que... Mais c'est pas grave, juste par empathie, parce qu'en fait c'est notre réflexe, c'est notre instinct. Mais dans nos vies du quotidien, c'est dans nos relations intimes qu'on peut trouver ça.
Alors on vous souhaite de vous offrir... ce beau cadeau d'empathie, ce beau cadeau de présence, ce beau cadeau de valeur accordée à l'autre. Et on espère que cet épisode vous aura donné de nouvelles idées et vous aura réconforté sur nos besoins, nos envies et à quel point on peut se faire du bien dans nos relations intimes.
Oui, et on vous retrouve bientôt pour le prochain épisode. Belle journée.
Très belle journée à vous.